Chapitre 10 : Le caractère chrétien. Le caractère du chrétien est démontré par sa vie quotidienne. Le Christ a dit : « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits » Matthieu 7.17. Notre Sauveur se compare lui-même à un cep de vigne dont les disciples sont les branches. Il déclare clairement que tous ceux qui veulent être ses disciples doivent porter du fruit. Il montre ensuite comment ils peuvent devenir des branches productrices. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Jean 15.4. L'apôtre Paul décrit le fruit que le chrétien doit porter. Il dit qu'il consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, Éphésiens 5.9. Il dit également, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 22 mai 2023. Ces précieuses grâces ne sont que les principes de la loi de Dieu mis en pratique dans la vie. La loi de Dieu est la seule vraie norme de perfection morale. Cette loi fut démontrée de façon pratique dans la vie du Christ. Il dit de lui-même, « J'ai gardé les commandements de mon Père Jean 15.10. » Rien de moins que cette obéissance ne satisfera les exigences de la parole de Dieu. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2.6. Nous ne pouvons pas plaider notre incapacité, car nous avons l'assurance, « Ma grâce te suffit » 2 Corinthiens 12.9. Alors que nous nous regardons dans le miroir divin qu'est la loi de Dieu, nous voyons le caractère excessivement grave du péché, et notre propre condition de transgresseur perdu. Mais par la repentance et la foi, nous sommes justifiés devant Dieu et, par la grâce divine, rendus capables d'obéir à ses commandements. L'amour pour Dieu et pour l'homme. Ceux qui possèdent un véritable amour pour Dieu manifesteront un désir sincère de connaître et de faire sa volonté. L'apôtre Jean, dont les épîtres ont si pleinement exposé l'amour, a écrit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements » 1 Jean 5.3. L'enfant qui aime ses parents montrera cet amour par une obéissance volontaire. Mais l'enfant égoïste et ingrat cherche à faire le moins possible pour ses parents, tout en désirant en même temps jouir de tous les privilèges accordés à celui qui est obéissant et fidèle. La même différence apparaît chez ceux qui professent être enfants de Dieu. Plusieurs de ceux qui sont conscients d'être l'objet de son amour et de son attention, et qui désirent recevoir sa bénédiction ne trouvent aucun plaisir à faire sa volonté. Ils considèrent les exigences divines comme une restriction déplaisante, ses commandements comme un joug pesant. Mais celui qui cherche réellement la sainteté du cœur et de la vie fait ses délices de la loi de Dieu et s'afflige lorsqu'il ne peut remplir totalement ses exigences. Il nous est ordonné de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Il a manifesté son amour en livrant sa vie pour nous racheter. Le disciple bien-aimé déclare que nous devrions être prêts à déposer notre vie pour les frères. Car quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 1 Jean 5.1. Si nous aimons le Christ, nous aimerons ceux qui lui ressemblent par leur vie et leur caractère. Et non seulement cela, mais nous aimerons aussi ceux qui sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2.12. C'était pour sauver des pécheurs que le Christ a quitté sa demeure céleste et est venu sur terre pour souffrir et mourir. C'est dans ce but qu'il a œuvré, agonisé et prié jusqu'à ce que, le cœur brisé et abandonné par cela même qu'il était venu sauver, il donne sa vie sur le calvaire. À l'exemple du modèle. Plusieurs reculent devant la perspective d'une vie qui ressemble à celle de notre Sauveur. Ils ont l'impression que cela demande un sacrifice trop grand d'imiter le modèle, d'abonder en bonnes œuvres et de subir avec patience les mondages divins afin de pouvoir porter davantage de fruits. Mais lorsque le chrétien se considérera seulement comme un humble instrument entre les mains du Christ et qu'il s'efforcera d'accomplir fidèlement chaque devoir, se reposant sur l'aide que Dieu a promise, alors il portera le joug du Christ et le trouvera aisé. Il portera alors des fardeaux pour le Christ et les dira légers. Il peut lever les yeux avec courage et confiance et dire, « Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1.12. Si nous rencontrons des obstacles sur notre sentier et les surmontons avec fidélité, si nous rencontrons l'opposition et les reproches, et que nous gagnons la victoire au nom du Christ, si nous portons des responsabilités, et que nous accomplissons nos devoirs dans l'esprit de notre Maître, alors nous aurons certainement acquis une précieuse connaissance de sa fidélité et de sa puissance. Nous ne dépendrons plus de l'expérience des autres car nous aurons le témoignage en nous. Comme les Samaritains d'autrefois, nous pourrons dire, nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est en effet le Christ, le Sauveur du monde Jean 4.42. Plus nous contemplerons le caractère du Christ et expérimenterons sa puissance salvatrice, plus nous réaliserons avec acuité notre propre faiblesse et notre imperfection, et plus sincèrement nous nous tournerons vers lui, notre force et notre Rédempteur. Nous n'avons aucune puissance en nous-mêmes pour purifier le temple de notre âme de sa souillure. Mais tandis que nous nous repentons de nos péchés envers Dieu et cherchons le pardon par les mérites du Christ, il nous communiquera cette foi qui agit par amour et purifie le cœur. Par la foi en Christ et l'obéissance à la loi de Dieu, nous pourrons être sanctifiés, et ainsi obtenir la capacité de vivre en compagnie des saints anges et des rachetés vêtus de blanc dans le royaume de gloire. L'union avec le Christ, notre privilège. C'est non seulement le privilège mais le devoir de tout chrétien de maintenir une union étroite avec le Christ et d'avoir une riche expérience des choses divines. Sa vie abondera alors en bonnes œuvres. Le Christ a dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié » Jean 15.8. Quand nous lisons les biographies d'hommes jadis célèbres pour leur piété, nous considérons souvent leurs expériences comme hors de notre portée. Mais ce n'est pas le cas. Le Christ est mort pour tous et nous sommes assurés dans sa parole qu'il est plus désireux de donner son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent que des parents terrestres de donner de bonnes choses à leurs enfants. Les prophètes et les apôtres n'ont pas atteint un caractère chrétien par miracle. Ils ont utilisé les moyens que Dieu a placés à leur portée et tous ceux qui déploieront les mêmes efforts s'assureront des mêmes résultats. La prière de Paul pour l'Église. Dans sa lettre à l'Église d'Éphèse, Paul leur présente le mystère de l'Évangile Éphésiens 6.19, les richesses incompréhensibles de Christ Éphésiens 3.8, et il les assure ensuite de ses prières sincères en faveur de leur prospérité spirituelle. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 14 mars 2019. Il écrit aussi à ses frères de Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. I Corinthiens 1.2, 7. Ces paroles sont non seulement adressées à l'Église de Corinthe mais aussi au peuple de Dieu dans son ensemble jusqu'à la fin des temps. Chaque chrétien peut bénéficier de la bénédiction de la sanctification. L'apôtre continue avec ces paroles, « Je vous exhorte frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, et dans un même sentiment » 1 Corinthiens 1.10. Paul ne les aurait pas appelés à faire ce qui était impossible. L'unité est le résultat certain de la perfection chrétienne. L'Épître aux Colossiens présente également les glorieux privilèges garantis aux enfants de Dieu. ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Colossiens 1er avril 2011. La norme de sainteté. L'apôtre s'efforçait lui-même d'atteindre la même norme de sainteté qu'il plaçait devant ses frères. Il écrit aux Philippiens, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et bien plus, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas comme si j'avais remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3 juillet 2014. Il existe un contraste frappant entre les prétentions vantardes et propres justes de ceux qui professent être sans péché et le langage modeste de l'apôtre. Or, c'était la pureté et la fidélité de sa propre vie qui donnaient une telle puissance aux exhortations adressées à ses frères. La volonté de Dieu. Paul n'hésita pas à souligner à chaque occasion convenable l'importance de la sanctification biblique. Il dit, « Vous savez, en effet, quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification » 1 Thessaloniciens 4.2, 3. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence mais bien plus encore maintenant que je suis absent, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2 décembre 2015. Il ordonne à Tite d'instruire l'Église qu'en se confiant dans les mérites du Christ pour le salut, la grâce divine habitant dans leur cœur les conduira à l'accomplissement fidèle de tous les devoirs de la vie. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne dire de mal de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes constamment ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et profitable aux hommes. Tite 3.1, 8. Paul cherche à impressionner nos esprits par le fait que l'amour est le fondement de tout service acceptable à Dieu ainsi que le joyau même des grâces chrétiennes, et que la paix de Dieu habite seulement dans l'âme où règne l'amour. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité mue, l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3 décembre 2017.